名ブサベイクイベットエラレーヌドゥラコーデオンエデュポップコーン。
C'est des moments comme ça.
Et oui, des moments comme ça. Des moments comme ça où on a, une cheville qui part dans le mauvais sens, où on a la grippe, où les éclairs s'attirent, les nuages pleins d'éclairs tournent autour de ta tête dès que tu sors du bureau et que soudainement c'est le déluge, mais que ça l'était pas avant le moment où tu sors du bureau. Il y a des moments comme ça, et c'est actuellement la vie de Pégase. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Cavalier Bulletin d'Information lancé à l'improviste. Comment ça va, Zalif Alkam?
Bah écoute, je dirais, sans me vanter, mieux que toi.
Yes.
Je pense qu'on sera d'accord pour dire au moins à l'instant T, ça va, je douille moins que toi dans ma vie, donc non, ça va.
Et bah dans ce cas, tout va très bien. Nous sommes ici pour parler de l'actualité de l'animation qui a animé les mois de la mi-septembre à la mi-octobre 2022. Si on arrive à faire un enregistrement d'une heure complet, puisqu'on revient à notre format classique d'une heure, sans avoir de bruit de reniflement sur la bande, eh bien, je suis soit un monteur de génie, soit vraiment j'ai montré beaucoup de discipline pendant cet enregistrement. Vous verrez bien lequel des deux... En tout cas, on se donne rendez-vous dans une heure pour faire la conclusion là-dessus. En attendant, je pense qu'on va tout simplement commencer à parler de l'actualité. Qu'est-ce que tu en dis, Ali? Est-ce que tu voudrais commencer avec une news de ton côté?
Oui, et j'écoute, je vais commencer avec une double news de pas animation japonaise, mais un tout petit peu liée quand même. C'est comme ça.
Alors,
je les évacue
du gouvernement de Listros.
Feu le gouvernement de Listros.
La laitue a gagné.
La laitue a gagné et c'était vraiment très drôle. Le mec a fait vraiment, il a mis une perruque à sa laitue, c'était trop bien. Non, il y a deux trucs qui sont un tout petit peu liés de très très loin à l'animation japonaise qui ont surgi. D'une part, c'est le trailer du film Mario, qui n'est pas à proprement parler de l'animation japonaise, mais enfin
non,
bon.
C'est l'animation française en fait.
Mais... Voilà, exactement. Tout ça pour dire, il y a un trailer qui est sorti, vous l'avez probablement vu.
Oui.
En vrai, je le trouve cool.
Ouais, ça va.
Je trouve franchement que ça va et j'étais assez fasciné par ces Américains qui eux-mêmes étaient fascinés par la voix française de Mario. Alors voilà, il y a littéralement un mot dans le, il y a littéralement une phrase dans le truc. Mais comme quoi, on se rappelle que les gens qui râlaient parce que c'est pas Charles Martinet en VF, ils ont probablement pas entendu la voix de Charles Martinet depuis longtemps. Et on a appris également que Charles Martinet avait participé à JoJo's Bizarre Adventure dans les années 90. La boucle est bouclée.
Ah bon ?
Voilà.
Ah,
oui, il a doublé. Il a doublé des personnages dans la version anglaise des OAV de Jojo des années 90, Charles Martinet. Et il y a des extraits qui sont sortis cette semaine sur YouTube, c'est fascinant.
Eh bien, ça alors.
Ça alors, et voilà. Et deuxième micro-news, pareil, c'est pas de l'animation japonaise, ça a failli être de l'animation américaine. Il y a un pilote de l'anime qui avait été trappé par Disney de Kingdom Hearts, qui est sorti. Alors c'était un dessin animé qui avait été commandé en 2002 pour accompagner la sortie du premier jeu Kingdom Hearts de Square Enix, et Disney avait été pas content du résultat, il l'avait foutu à la poubelle. Et en fait il y a un des animateurs qui l'a remis sur YouTube cette semaine. Et en fait c'est un épisode, alors c'est que des storyboards, des images fixes et tout ça, mais c'est doublé et on voit ce que ça aurait dû être. C'est assez intéressant. Disney a demandé au mec de l'enlever, ce que le gars a fait, et évidemment c'est resté 5 jours en ligne, donc il y a des milliards de comptes qui l'ont réuploadé. Donc voilà, c'était les deux news non animation japonaise, mais presque, de Zali.
Eh bien, ma foi, c'est un bon début, même si ça nous lance sur un terrain de hors-sujet qu'on pourrait arpenter vraiment jusqu'à la liste.
C'était pas un gros mois.
Non, c'était pas un énorme mois. Néanmoins, c'est un mois avec quelques annonces, et je vais continuer du coup avec une annonce d'anime original, ma foi, qui est une des dernières annonces de cette période-là, en fait. Il s'agit d'un anime qui répond à un nom... un nom, ma foi, assez étonnant, puisqu'il s'appelle Shumatsu Train Doko Iku, donc Où va le dernier train, qui est un animé original sur lequel on ne sait rien, puisqu'il n'en existe actuellement qu'un visuel clé, donc qui a été révélé par Kadokawa, où on voit essentiellement une fille qui regarde avec des cheveux qui ondulent, un espèce de vaisseau extraterrestre très très bizarre, qui on dirait un petit peu une boule de Katamari Damacy, et un anus de Labrador. ou de Shiba Inu, c'est peut-être plutôt un Shiba Inu. Bref, c'est essentiellement ça qu'on en sait, et on en sait une autre information qui rend cette petite news pétillante, c'est le fait que le réalisateur, c'est notre ami, celui que j'ai nommé dans le conducteur le Tok Tok en chef, Tsutomu Mizushima. Pourquoi je l'appelle le Tok Tok en chef? Parce que c'est un doudingue, le bon sieur Mizushima, qui nous a notamment gratifié de séries telles que Shirobako, tels que le vraiment dingue Girls and Panzer, ouais. Et aussi des trucs un peu moins dingues, des trucs un peu plus classiques comme par exemple Witchcraft Quartz qui était très sympa aussi, ou encore Prison School qui lui pour le coup était plutôt dingue, et des trucs ouais. aussi pas ouf comme plus récemment Mayo Iga, ou encore je sais plus quel était le titre, voilà, The Magnificent Kotobuki qui était assez oubliable. En tout cas, un projet original dont cet homme-là serait aux commandes, ça donne forcément envie, et bah du coup on se donne rendez-vous dans on ne sait combien de temps pour en savoir plus sur cet animé qui arrivera là aussi on ne sait quand.
Eh ben écoute, moi je vais enchaîner avec une annonce aussi,
oui.
Qui moi personnellement me fait envie, même si je crains un peu l'accident, c'est l'annonce d'un crossover entre Lupin the Third et Katsai, qui ouais. a été annoncé pour 2023 en exclusivité sur Amazon Prime Video. Voilà, ça faisait ouais, longtemps qu'on n'avait pas prononcé les mots Amazon Prime Video en parlant d'animation, mais voilà, bon bah c'est une annonce qui a été faite donc à l'occasion des 50 ans de l'animé Lupin the Third et des 40 ans du manga Katsai. Putain, ça nous rajeunit pas toutes ces affaires. Donc voilà, un film qui se déroulera dans les années 80, donc au moment de Katsai. Donc on retrouvera les héroïnes à l'âge qu'elles ont et Lupin the Third à l'âge qu'il a à toutes les époques, hein, puisque voilà, si on suit la chronologie. Ouais. Maintenant, ça doit être l'arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils du premier Lupin, parce qu'il ne vieillit jamais. On a quelques informations, à part le fait que ça se passe dans les années 80, sur le cast. Donc, on retrouvera la voix de Lupin, hein, donc oui. Kurita. Kenichi Kurita. Keiko Toda reprendra son rôle de Hitomi, qui était la grande sœur des Katsai. Et on a aussi quelques infos sur le staff qui va travailler là-dessus. Donc ce sera Kobun Chizuno et Hiroyuki Seshita qui réaliseront le film. Donc on les connaît notamment pour leur travail sur des trucs de 3D CG genre Night of Sidonia ou la trilogie Godzilla qui est sur oui. Netflix chez nous, je crois.
Oui, et tout à fait.
Et qui était
mondialement, voilà. Ils me sont d'ailleurs.
Voilà, exactement, mondialement. Et à la musique, on aura le compositeur de Lupin the Third et le compositeur de Katsai qui signeront ensemble la musique. Donc c'est plutôt une bonne bonne série d'annonces.
Ouais.
Après, il y a un peu un côté best-of, plein de franchises mélangées ensemble avec du gros staff et des fois trop de cuisiniers gâtent la sauce. Donc c'est un peu difficile de voir quel sera le résultat. Mais en tout cas, ouais. C'est assez intriguant comme annonce.
Tout à fait, sachant que je ne sais plus si tu avais dit, mais on ne sait pas encore quel sera le format de cet animé.
Non,
donc,
on ne sait pas encore. Moi, j'ai dit que c'était un film parce que c'est ce que j'en ai déduit, parce que c'est probable, mais
en vrai,
c'est...
Ce genre de crossover ont tendance à l'être, mais ensuite, on ne sait pas. Pour l'instant, la news ne le précisait pas, donc...
Tout à fait, ça pourrait tout à fait aussi être une mini-série, ou voilà, je pense pas que ce sera un 52 épisodes, quoi, mais...
Ouais.
Mais on vous en dira plus quand on le saura.
Tout à fait, et donc en full 3D, parce que
oui,
pourquoi
full 3D,
pas.
Ouais.
Moi je vais continuer sur une annonce, ma foi, réjouissante, et qui va réjouir essentiellement moi, puisqu'on va partir sur la licence Fate, ça faisait si longtemps. Et pourtant,
j'ai pas l'impression que ça faisait si longtemps, mais ok.
Si, ça faisait si longtemps, oh. Ça faisait un petit bout de temps depuis la dernière série animée Fate, hein. Ça fait depuis, je crois, 2 ans, avec ouais. La fin de Babylone, il me semble. En tout cas, cette fois-ci, on n'a pas affaire à une série, puisqu'on va avoir affaire à ce qui est la tradition annuelle désormais de l'univers de Type Moon. C'est-à-dire que tous les 31 décembre de chaque année, généralement, il y a un programme, une diffusion qui est faite avec différentes émissions autour de la saga Fate et notamment de Fate Grand Order. Ce qui a été l'occasion de dévoiler des choses comme par exemple l'épisode pilote de Lord Elmeloy, comme par exemple quelques épisodes bonus de Fate Grand Order, des fois sérieux, des fois pas sérieux du tout. Là en l'occurrence, on va donc avoir le droit à un téléfilm donc, qui sera une première adaptation. Je dis première parce que j'ai les doigts croisés et que je suis finalement un grand naïf devant l'éternel. En tout cas, une adaptation de quelque chose qu'on attendait, puisqu'il s'agit de Fate Strange Fake. Et là, tu entends Fate Strange Fake, Zali Falcam, tu te dis « Oh, encore du Fate, je m'en fiche, je vais retourner boire mon pastis. » Sauf que, tiens-toi bien, il s'agit en fait d'un light novel qui est écrit par ni plus ni moins que Ryogo Narita. Ryogo Narita qui, pour rappel donc, est l'auteur de Durara et de Bacano, par exemple. Et aussi de tout un tas d'autres spin-offs, comme par exemple...
Il a fait plein d'autres choses, mais...
Ouais. Par exemple, les light novel Bleach qui ont commencé à sortir chez Glénat tout dernièrement. Bref, un écrivain prolifique et qui du coup écrit cette série spin-off de Fate qui a comme particularité d'avoir une guerre du Graal qui oppose des vrais servants à des faux servants. Donc ça rajoute encore une couche de complexité car Narita, voilà. De toute façon, s'il y a moins de 50 personnages dans le cast, Ryugo Narita n'écrit pas. De toute façon, il écrit sous pseudonyme.
J'imagine Saber avec un faux nez, une moustache de carnaval et tout.
Non, ça a l'air d'être des bails encore plus compliqués que ça. J'ai le light novel à côté de moi, là, dans mon étagère, et je n'y ai pas touché depuis... quelques mois parce que je manque de courage car je suis un homme de peu de foi et de peu de temps aussi, il faut le dire. Et donc cette adaptation de Fate Strange Fake, elle est réjouissante déjà parce que c'est une adaptation de Fate Strange Fake et qu'ils avaient dit, enfin qu'il me semble que Narita avait dit qu'il ne souhaitait pas d'adaptation animée avant qu'il ait terminé tout simplement l'intrigue de Fate Strange Fake. Là il me semble que l'intrigue n'est pas encore terminée, mais on aura déjà une adaptation d'une bonne partie ou au moins du début de la série. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que le staff, on le connaît. Le staff, il s'agit à la réalisation de Shunenu Kido et de Takehito Sakazume, qui sont des noms que vous ne connaissez pas forcément, mais que les fans de Fate connaissent plutôt, puisqu'il s'agit en fait des réalisateurs des pubs de Fate Grand Order, qui sont assez nombreuses. Il y en a à l'heure actuelle une cinquantaine. C'est à chaque fois des pubs qui font à peine une minute, mais qui sont généralement extrêmement bien produites. C'est également des gens qui ont été très actifs sur la production, notamment de Fate Apocrypha, qui en termes de production est quand même, parce qu'il se fait de plus dégueulasse dans cet univers-ci. Avec des character design de Yuke Yamada, qui du coup était justement au travail sur Fate Apocrypha, et la musique signée par Hiroyuki Sewano, parce que rien n'est trop beau pour mon petit bébou Fate. Du coup, ça arrive forcément le 31 décembre. Est-ce que ça arrivera chez Crunchyroll ? J'ose l'espérer. En tout cas, je ne peux que croiser les doigts et attendre fermement avec un calendrier de l'Avent agrandi à cette occasion, forcément, pour attendre l'arrivée de mon Fate Strange Fake. Voilà tout ce que j'avais à dire sur le sujet, et c'est déjà pas mal.
Eh ben écoute, c'est bien et ça me réjouit pour toi. Moi, ça me passe un peu au-dessus forcément, mais j'ai presque fini de regarder la série Fate de 2006.
Ah, hein. Oh, il ouais. Faut se dire qu'il est heureux.
Tu vois, genre, oui, non, mais c'est exactement ça. Bah écoute, non, mais c'est bien. C'est juste que voilà, les journées ne faisant que 24 heures, je suis en train de terminer la série 2006, moi, Fate.
Bah c'est oui. Alors, tu es un valeureux.
C'est assez courageux et je la fais en VF. Voilà, figure-toi.
Ah oui,
elle est
là,
pas
n'es
bien.
Plus courageux, tu es un petit peu dingo.
Non, mais il y a un côté... c'est intéressant à faire. C'est une expérience intéressante. Écoute. Et je pense que ce qui sera intéressant, c'est également l'animé Nier Automata. Et là, pour le coup, je le dis au premier degré. Puisqu'on a eu tout un tas, alors c'est pas une annonce de maintenant, ça fait un bail qu'il a été annoncé, mais oui. On a eu beaucoup, beaucoup d'informations. Déjà, on a une date de diffusion, ça sera en janvier prochain.
Ouais.
Et ensuite, on a eu quelques extraits qui ont été diffusés et qui, franchement, ça a l'air de tenir la route. On a un réalisateur, on a Ryuji Matsuyama, donc connu notamment sur Blendes. Et aussi, on a quelques infos sur le contenu, parce que jusque-là, on n'était pas tout à fait sûr de est-ce que ce sera une adaptation fidèle du jeu, est-ce que ce sera une version alternative, est-ce que ce sera complètement une autre histoire. Alors maintenant, on sait que ça adaptera Nier Automata en version un petit peu Terre 2. C'est-à-dire que si vous avez fait le jeu, il y a quand même de la valeur ajoutée à le regarder, puisque ça se passera du coup dans le même univers avec les mêmes personnages, mais ça racontera un petit peu quelque chose de différent. Donc, c'est assez encourageant. Et il y a une vidéo de 8 minutes qui a été publiée, qui est sous-titrée en anglais, donc ça c'est assez cool, qui parle un petit peu justement de la production, du casting, du staff, qui revient un petit peu sur tout le chemin qui a été parcouru aussi entre cette licence qui était quand même quasiment tombée dans l'oubli avec la faillite de son développeur, de Cavia, et puis après qui est revenu chez Square Enix, qui a commencé à développer une suite, qui a ensuite travaillé à des remasters du premier Nier, et à une ressortie un petit peu du formol de cette licence, et puis qui a en 2017 sorti Nier Automata avec le succès qu'on lui connaît. Donc j'avoue que je suis assez chaud parce que c'est un jeu vidéo qui est assez cinématique en fait, Nier Automata déjà de base, et qui se prête assez bien à une adaptation. Ouais. Et il a un lore qui est quand même assez chouette avec cette humanité qui a déserté la Terre et qui envoie des androïdes se battre sur place et discuter philosophie avec des robots bizarres. Donc c'est assez chouette, je suis assez chaud et je serai au rendez-vous pour voir l'anime Nier Automata de A1 Pictures en janvier prochain. Et il y a Monaka à la musique aussi.
Oui, tout à fait. Moi, je vais enchaîner en continuant à être un peu ce lourdeau qui vous parle de Fate, mais de manière un petit peu détournée, puisqu'on va parler de créateurs qui sont du moins adossés à cette licence-là, je vais vous parler tout simplement de l'annonce d'un film qui semble un petit peu être, on va dire, contraire à son époque, j'ai envie de dire. Il s'agit du film Eisenflugel, qui est en fait l'adaptation de light novel de Gennaro Bucci, light novel de Gennaro Bucci qui sont un diptyque qui était sorti en 2009 à la base. Du coup, pourquoi est-ce que ça sort maintenant ? Eh bien, c'est une bonne question, à vrai dire. Et Gennaro Bucci, qui est du coup l'auteur original, nous raconte, avec cette annonce, l'histoire de ce projet qui, à la base, en fait, était justement un projet de film qui avait été proposé, du coup, à la société Nitro Plus, à laquelle appartient Uro Bucci, sur lequel il avait planché. Du coup, on lui a dit, au final, finalement, ça va plutôt être une série télé. Du coup, il a développé ça, enfin il a rajouté du contenu à son projet initial, Urobuchi, et ensuite le projet est plus ou moins sorti dans l'oubli. Alors il l'a sorti en light novel et il l'a un peu oublié, et là du coup bah ça se retrouve adapté du coup véritablement en film comme c'était prévu à la base au milieu des années 2000, ce qui est du coup assez étonnant, mais ça fait plaisir de voir que ce genre d'arlésiennes peuvent finir par voir le jour au bout du compte. Et le staff n'est pas des moindres, si je puis dire, puisque, donc, en plus de Gennaro Bucci, du coup, à l'écriture et à la supervision du script, on va avoir le droit à un character design original qui va être redessiné, non pas par l'illustrateur de Light Novel, mais par Takashi Takeuchi, qui est tout simplement l'illustrateur de Fate Stay Night. Voilà. C'est pour ça que je disais ça au début. Et le film lui-même va plutôt avoir droit à un staff de qualité, puisque le film est réalisé par Daisen Komatsuda, qui est un monsieur qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, mais qui a été un des assistants principaux de Anno sur les films Evangelion, tout simplement. C'est aussi le réalisateur de Bubuki Bulanki. Si vous aimez bien les séries de mecha récentes, celle-là était plutôt intéressante. Le film sera supervisé par Seiji Mizushima, qui est un réalisateur véritablement vétéran, puisque c'est le réalisateur de Fullmetal Alchemist première version, et aussi de Gundam 00, et de plein d'autres séries depuis. Hein. Le character design, il est pour l'animation, il est géré par Keigo Sasaki, qui est lui aussi un character designer de renom, vu qu'il a travaillé sur des productions pas plus dégueulasses que Blue Exorcist et The Millionaire yes. Detective, plus récemment. Et à la musique, on a tout simplement Yuki Kajiura, donc là aussi, Fate Zero, sur l'entraînement.
Toujours dans les bons coups.
Toujours dans les bons coups. Le tout chez A1 Pictures, ce qui fait plutôt une production qui, clairement, a de l'ambition. Ensuite, de quoi ça parle, Eisenflugel ? Là, c'est un peu plus flou. J'ai lu vite fait le résumé. Ça parle de dragons, ça parle de pilotes de chasse qui s'affrontent dans une espèce de guerre contre... Je sais pas si c'est des humains ou même les dieux, enfin bon, ça a l'air, somme toute, assez étonnant. Et ça arrive au moment où ça arrivera, puisqu'à l'heure actuelle, on n'a pas de date, mais en tout cas, on est curieux, forcément, de voir ça, voilà.
Et ben moi, je vais aussi enchaîner avec une news film, et une news, on est curieux de voir ça, puisque je vais te parler de Hanzu, le chat fantôme.
Oui.
Qui est donc un film qui est en cours de production par Shinei Animation, qu'on ne présente plus, hein, Doraemon, Crayon Shinchan, etc. etc. Oui. Voilà, Warhouse Salesman et bien d'autres.
J'y pensais justement.
Oui, ouais, bah oui. Et Miyu Production. Et Miyu Production, je vais y revenir. Mais déjà, est-ce que tu connaissais, toi, ce manga Ghostcat Hanzu ?
Absolument pas.
Eh bien, écoute-moi non plus, et il n'a pas été édité en France. Donc, a priori, c'est l'histoire d'un chat fantôme qui vit des aventures en faisant le con, hein, dans la campagne japonaise, si j'ai bien compris le principe. C'est un manga de 2007 en un seul volume, donc en one shot. Donc, wow, probablement un jour au lézard noir. Hein, voilà, vous connaissez les bails d'édition française. Ça a un peu l'air d'être leur cam, en vrai de vrai.
Et, ouais, ou alors chez Del Courton Cam dans la collection Moonlight oui. Manga, je pense.
Oui, voilà, ce genre de gros one shot qui va bien et qui en général se retrouve dans les bibliothèques municipales.
Ouais.
Donc voilà, et moi ce qui m'a intéressé dans cette affaire là, c'est pas tant la participation de Shinei Animation que de Miyu Production, qui est en fait un studio que je connais assez bien parce que c'est un studio français. Ouais. Déjà d'une part, et que c'est un studio qui a beaucoup travaillé avec des auteurs de BD, donc forcément je les connais un petit peu de feu mon travail à la cité de la bande dessinée, ouais. Puisque c'est déjà des gens qui travaillent beaucoup sur la rotoscopie, sur des techniques d'animation assez cool, qui ils ont vraiment un registre d'expression qui est assez bien, assez proche de l'art contemporain, et ils ont travaillé avec des auteurs de BD comme Hugo Bienvenue ou Cyril Pedrosa pour faire des adaptations en clip de leur planche de BD, donc c'est vraiment un studio qui est très quali, et c'est pas pour rien que le projet enfin qui se retrouve là-dedans, parce qu'en fait l'adaptation de Gosuke Tanzu est assez ambitieuse, avec un mélange de 2D, de 3D, de rotoscopie, dont les premières images donnent assez envie. Alors après, est-ce que ça va se retrouver un jour sur nos écrans, ça je sais pas, honnêtement ça sent un peu le film de festival quoi, peut-être un peu de mal à en sortir, mais j'avoue que je suis assez curieux de voir le résultat, même si je connais pas le matériau d'origine, donc voilà, je vous invite à aller regarder des images de production de Gosuke Tanzu, parce que c'est assez prometteur.
Ouais, oui, bah tu dis film de festival, et c'est marrant parce que Miu Production, je les connais essentiellement parce que à Annecy, dès que tu allais voir un court-métrage ou quelque chose comme ça, à la fin, tu avais assistance de production ou production Miu Production. Donc,
ils ont fait énormément de courts-métrages. Hein. Il y a vraiment, sur leur site officiel qui est accessible, vous pouvez en voir une partie. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de courts-métrages, et on sait que court-métrage, ça veut dire soit Arte la nuit, soit festival.
Oui, tout à fait. Eh bien, espérons voir ce film, ne serait-ce qu'en festival, et yes. Si possible ailleurs aussi. Moi, je vais parler d'une news qui va faire écho à une news qu'on avait relevée il y a longtemps. On avait parlé du fait que le magazine Shonen Champion, hebdomadaire de Akita Shoten, avait révélé qu'une œuvre du romancier Baku Yumemakura allait être adapté en animé, ce qui est une bonne nouvelle, puisque Baku Yumemakura, c'est un auteur qu'on aime bien et qui a travaillé avec beaucoup d'autres mangaka, notamment, puisque par exemple, il a travaillé avec Jirō Taniguchi sur Le Sommet des Dieux, hein, truc aussi con que ça. Il a aussi travaillé c'était lui qui avait fait Garoden, qui a donc été adapté en manga à la fois par Jirō Taniguchi, du coup, qui est un one-shot en l'occurrence, mais aussi avec Monsieur Itagaki père, donc, qui lui l'avait adapté en beaucoup plus de tomes. Et du coup, on ne savait pas encore quel roman de cet auteur assez prolifique allait être adapté. Et on le sait maintenant, il s'agit de la série de romans Onmyoji, du coup, qui est une assez vieille série de romans de Yumemakura, justement, qui avait commencé dans les années 80 et qui raconte du coup justement des l'histoire d'un des Onmyoji très connu, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Seimeno Abe, mais je ne suis plus sûr, dans le Japon féodal. Ce qu'on sait de cette adaptation, c'est du coup que ce sera diffusé sur Netflix, c'est que ce sera réalisé par la jeune réalisatrice Sobi Yamamoto, qu'on connaît essentiellement pour des séries courtes et, pour ne pas mentir, plutôt des séries un peu fauchées, hein, au sein d'un studio qui est lui-même pas très connu, puisque c'est le studio Marvy Jack, qui est un studio qui jusque-là a essentiellement travaillé sur de la sous-production, sur des coproductions et le fait de travailler pour d'autres studios, car j'ai perdu mes mots et que j'oublie toujours ce mot-là. Voilà. Pour l'instant, difficile d'en dire autre chose, puisqu'on a juste un petit visuel où on voit du coup un Edo vu d'en haut, et on a juste le logo, donc difficile d'en dire plus. On reste curieux de voir ça. Ensuite, le staff qu'on connaît déjà pour permettre de se poser la question de est-ce qu'on risque pas d'avoir un truc un petit peu à la Voix du Tablier. Ce qui peut être tout à fait valable, mais sera peut-être moins intéressant que d'autres productions qui ont également été annoncées par Netflix dans la même période et dont on va reparler tout bientôt. Voilà tout ce que j'avais à dire sur la news.
Écoute, puisque tu me tends la perche, je peux annoncer que Netflix a annoncé une deuxième saison pour La Voix du Tablier.
Oui.
Qui sera probablement du même facteur que, enfin, du même tonneau que la première, c'est-à-dire c'est plus du manga animé que de l'animation. Alors moi j'étais assez client de la proposition, toi moins, mais pas simplement pour signaler quand même que la voix du tablier, c'est pas innocent en fait qu'il y ait une saison 2. C'est que déjà la saison 1, Netflix l'avait annoncé, ça avait bien marché en termes de visionnage, beaucoup de gens avaient découvert le manga à cette occasion, et que entre temps il s'est passé un truc, c'est que la voix du tablier, enfin le manga, a gagné un Eisner Award.
C'est
et un Eisner Award, si vous savez pas ce que c'est l'équivalent d'un Oscar en fait pour la bande dessinée. Cette année, ça a été la bande dessinée primée à la meilleure série comique, c'est vraiment l'équivalent d'avoir pas un Nobel de littérature mais un Goncourt, quoi. C'est-à-dire que ça relance la machine à imprimer, hein, quand vous avez un Eisner.
Ne serait-ce qu'aux États-Unis en tout cas.
Voilà, ne serait-ce qu'aux États-Unis, je l'avais un peu vécu quand Pénélope Bagieu avait eu un Eisner, et que je gérais une bibliothèque de bande dessinée. Bah le lendemain, toutes ces BD est sorti, etc. Pareil en librairie. Donc c'est pas étonnant que La Voix du Tablier soit une franchise qui soit appelée à continuer à être adaptée, réadaptée. Donc il y aura une saison 2 qui arrivera tout prochainement, puisque ce sera en janvier 2023 sur Netflix, avec le même staff, hein, donc probablement le même résultat.
Oui, et tant qu'à faire, il me semble que Chainsaw Man, lui, a eu le droit à son deuxième Eisner Award consécutif, parce que voilà,
oui.
juste comme ça, voilà.
Je sais pas si, je crois que ça n'arrive quasiment jamais, en plus qu'une série gagne deux fois de suite un Eisner Award, mais bon.
Je me suis pas renseigné plus que ça, j'avoue, mais ouais.
Tant mieux pour Chainsaw, j'allais dire Lollipop Chainsaw Man.
Chainsaw Man, tout à fait, dont on reparlera bien assez tôt.
Yes.
Moi, je vais parler d'une autre bonne nouvelle, puisqu'il y a eu tout récemment l'annonce d'une adaptation en animé d'un manga que j'aime bien, qui était un petit coup de cœur d'il y a quelques années. Il s'agit du dernier manga du mangaka Masakazu Ishiguro, manga qui répond au doux nom de A Journey Beyond Heaven, qui est en fait un manga post-apocalyptique à ambiance, j'ai envie de dire, puisque ça raconte en fait un espèce de voyage qui est entrepris par deux adolescentes dans un monde du coup post-apocalyptique, où les maisons sont abandonnées et où clairement les normes classiques de la société ont complètement été abandonnées et sont tombées en ruine.
Sous genre très à la mode dans le manga en ce moment, il y a vraiment pas mal de mangas qu'on speech là de c'est des meufs, elles visitent un monde détruit et voilà. Et c'est tout.
Oui, ça a tendance à donner des trucs plutôt cool en l'occurrence.
Oui, et c'est plutôt cool, c'est une tendance que j'aime bien.
Là du coup en l'occurrence, alors je vais pas dévoiler ce qui fait un petit peu la spécificité du manga, parce que je vais vous laisser découvrir ça. C'est actuellement publié chez Pika. Je suis envieux, mais voilà, c'est actuellement chez Pika et ça ne fonctionne pas très bien d'ailleurs, donc n'hésitez pas à acheter les tomes, voilà.
J'ai acheté le tome 2 avant de réaliser que j'avais pas le tome 1.
Yes. Voilà,
donc je j'ai pas commencé à lire encore.
Moi j'avais lu le tome 1, mais bien avant qu'il soit annoncé en France, donc du coup maintenant il faut que je rattrape. Et c'est compliqué, bref. Mais pour vous donner une spécificité du manga, c'est qu'en fait, on va suivre deux histoires en parallèle. On va donc suivre l'histoire de ces adolescents qui recherchent le paradis, en fait, en quelque sorte, qui cherchent un espèce de paradis qu'ils imaginent exister quelque part pour avoir enfin une vie décente dans ce monde post-apocalyptique, pardon. Et de l'autre côté, monde post-apocalyptique, pardon, qui est parcouru de monstres, puisque tant qu'à faire, autant avoir des monstres qui ne répondent à aucune norme de beauté classique, j'ai envie de te dire, c'est des monstres assez crado, qui viennent pimenter un peu l'aventure. Et de l'autre côté, du coup, on a en même temps le récit du point de vue d'un espèce d'institut, une espèce d'orphelinat clos où des jeunes enfants évoluent et semblent être éduqués par des robots. C'est du coup, ça évoque forcément des trucs à la Promise Neverland. Je vais pas dire dans quel sens ça évolue, mais c'est très intéressant. Ça donne très hâte de découvrir plus sur le sujet. Pour l'instant, sur l'animé qui a été annoncé, on ne sait qu'assez peu de choses, sinon que l'adaptation en animé va être réalisée par le studio Production IG, ce qui est déjà plutôt signe de bonne chose. Ça va sortir en 2023, et on sait aussi que la direction artistique devrait a priori être gérée par monsieur Kaneko, qui est un excellent directeur artistique justement pour les animés de ce type-là. Du coup, eh bien, on ne peut que s'attendre à de bonnes choses. N'hésitez pas à aller regarder notamment le visuel clé qui a été révélé pour Journey Beyond Heaven, qui est assez troublant, puisque ça montre le protagoniste devant une espèce de gigantesque œil extrêmement bizarre. C'est très intriguant et on espère en découvrir plus très bientôt. Voilà tout ce que j'avais à dire sur Journey Beyond Heaven.
Yes, moi il me reste encore quelques annonces, clairement là, là j'ai dit le plus gros, mais il y a des choses qui ne sont pas surprenantes, comme l'arrivée d'une cinquième saison pour Agretsuko, on le savait, oui. On n'avait pas la date, ce sera en février 2023, et ce qui a été confirmé, c'est que la saison 5 serait la dernière d'Agretsuko, oui. Voilà. Et je vous renvoie à mon avis sur la saison 4, mais j'aurais tendance à dire tant mieux, parce qu'il est temps que ça se termine, ça tourne un poil en rond, et ça a un peu du mal à aller au bout de ce que ça veut raconter, donc c'est bien d'avoir une échéance. On sait qu'on aura enfin le fin mot de l'histoire du destin de cette employée de bureau qui galère dans la vie et qui sait pas trop ce qu'elle veut, et à la fin ça devient n'importe quoi. Donc voilà, février 2023 pour le final d'Agretsuko, toujours sur Netflix, toujours avec le même staff et toujours le même studio. Enfin, rien ne change, c'est Agretsuko.
Tout à fait. Et on pourra enfin y voir Aïda disparaître dans le métaverse.
Soutenu par Bruno Le Maire.
Tout à fait. De mon côté, je vais aussi parler d'une suite annoncée et qui ne change pas véritablement la recette. Il va s'agir tout simplement de la nouvelle saison de Love Live Superstar. Et là, tu vas me dire, oh bah oui, bah c'est normal.
C'est normal.
Bah voilà, toujours plus de Love Live après tout. Sauf que jusque-là, les différentes générations de Love Live avaient toujours eu que deux saisons maximum. La première génération de Love Live s'était terminée en deux saisons. Love Live Sunshine, deux saisons. Love Live Nijigasaki, Gakuen, machin, deux saisons. Et Love Live Superstar vient de terminer sa deuxième saison et en a annoncé une troisième. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? J'aurais tendance à dire que c'est une extrêmement bonne nouvelle étant donné la qualité tout simplement de cette génération-là de Love Live, toujours portée par le réalisateur Takahiro Kyogoku, je le dis sur mon tête donc désolé si je me suis trompé, mais qui est un excellent réalisateur et qui nous avait notamment offert, outre donc la première saison de Love Live, qui nous avait aussi offert par exemple L'Heure des Cristaux, donc plutôt pas un mauvais réalisateur dans l'absolu. Et du coup le voilà immobilisé encore sur Love Live. Oh, quelle tristesse. En fait, non, c'est pas sûr, puisqu'on n'a pas eu de confirmation sur le staff, mais a priori, il devrait quand même revenir, ne serait-ce qu'à un poste de supervision. Et on n'a pas encore de date, mais le fait est que Love Live Superstar, ça continue. Et je vous dirai très bien chaud ce qu'on a pensé, ce que du moins j'ai pensé de la deuxième saison de Love Live Superstar. Spoiler, c'est plutôt très très bon, et vraiment de façon surprenante, vraiment. Donc voilà, on se retrouve dans le bilan pour parler de Love Live Superstar, et on se retrouve dans je ne sais pas combien de temps pour retrouver une troisième saison de Love Live Superstar.
Écoute, je vais doucher toute cette joie et tout cet optimisme qu'on a depuis le début en parlant d'un truc qui pour le coup me fait un peu peur. Ouais. C'est encore une annonce d'animé, c'est l'annonce d'un animé Onimusha, donc tiré de la licence de Survival Horror, ouais. De Japon médiéval, Jean Reno, tout ça, vous connaissez les bails, par Takashi Miike. Ouais. Voilà. Donc Netflix, il s'est dit, qui c'est qui est connu au Japon qu'on pourrait brander à l'international? Takashi Miike, il va faire un animé. Ah bon, bah une bonne idée. Bon, c'est pas lui qui va le faire directement, puisqu'il n'a jamais vraiment fait d'animation. Hein. Takashi Miike, il a fait des adaptations de séries animées en film live.
Ouais.
On lui connaît notamment JoJo's Bizarre Adventure, Terraform Mars, Ichi the Killer. Enfin, il a fait des.
Et
ça tournait.
Même si c'est pas du.
Non, mais voilà, il a pris des jeux vidéo, des animés, il en a déjà fait en film live, mais là il s'agit bien d'une série d'animation qui sera concrètement réalisée par Shinya Sugai, et c'est pas forcément une bien meilleure nouvelle, parce que c'est la personne qui était notamment derrière Dragon's Dogma, donc ouais. Voilà, qui passe pas brillant, puis voilà, qu'est-ce qu'il y a adapté dans Onimusha? Pas grand chose, parce qu'en vrai, les scénarios d'Onimusha, c'est Toshiro Mifune, il se bat contre des monstres, voilà. Il y a Jean Reno qui débarque.
Bon, c'est bien comme scénario.
C'est déjà bien comme scénario, mais disons qu'il faut impérativement, pour que ça fonctionne, que ce soit une série soit bien réalisée, soit avec des scènes d'action qui claquent. Les premières images font, on va pas se mentir, pas très très envie. C'est pas très beau, que ce soit en termes de chara-design, de cadrage, de colorimétrie et tout ça, donc. Mystère, mais on verra bien. Il y a déjà eu un film Onimusha d'ailleurs en 2006, il n'était pas incroyable pour tout vous dire. Et si vous voulez redécouvrir cette franchise, il y a Onimusha 3 qui est disponible sur Steam. Voilà, et c'est peut-être plus intéressant que ce futur animé qui arrivera à une date encore indéterminée.
Oui, tout à fait. Et qui sera produit par Sublimation, qui est du coup oui. aussi le studio de Dragon's Dogma, qui est plutôt un ouais. studio spécialisé dans la 3D.
Yes, a priori, ce sera de la 3D. Hein. Les images qu'on a, c'est ouais. vraiment 3D as fuck.
Tout à fait. Est-ce que tu me conseillerais un jeu, Onimusha ?
Le 3.
Le 3, très
parce
bien.
Que c'est le seul qui est aujourd'hui est facilement accessible. Voilà. Parce que okay. les autres sont perdus dans les limbes de... Sony les a jamais ressortis, je crois qu'il y a des problèmes de droit, me semble-t-il, et tout ça. Donc,
c'était pas édité par Capcom ?
C'est édité par Capcom, mais pour que ça, enfin, Capcom a la propriété, mais je crois que c'est un peu compliqué de les ressortir.
D'accord.
Pour des raisons, je crois, qui sont liées à la présence d'acteurs dans les films, et en plus ils ont perdu des assets, donc ils n'ont pas la possibilité aussi, de le faire facilement. Faudrait faire un remaster, et c'était rigide as fuck, et donc tout c'est pas terrible. Mais le 3 a échappé à toute cette merde, et il est dispo sur Steam pour une poignée d'euros. Donc,
voilà. Puis c'était aussi sur Onimusha qui avait travaillé le fameux compositeur sourd, mais pas vraiment. Il me semble.
Ah oui, tout à fait, exactement.
Celui qui a
faké sa surdité.
Enfin bref.
Voilà, bref.
Nous verrons.
Bref.
Nous verrons. Espérons qu'ils ressortent le jeu d'une façon accessible
oui.
À l'occasion de la sortie de l'animé. Ce serait, ma foi, une bonne idée.
En bundle avec un Silent Hill.
En bundle avec un Silent Hill, tout à fait.
C'est même pas le même éditeur, mais c'est pas grave.
Silent Hill, écrit par Ryukishi07. Nous vivons vraiment dans une timeline incroyable. Une timeline où, du coup... Un Silent Hill va être écrit par le scénariste de Higurashi et de Umineko, et où la page Wikipédia anglaise de Ryukishi07 cite par son nom et prénom notre ami Amo, le podcasteur français. donc voilà, nous vivons dans une timeline, nous vivons véritablement dans une saucisse.
dans une cyber-saucisse.
Mais félicitons Amo du coup pour cette renommée internationale. Yes. Moi je vais continuer sur un autre projet qui ne me rassure pas forcément fondamentalement à fond. On va parler tout simplement du manga Shai de Buki Mimiki, qui est un shonen qui a été lancé dans le Shonen Champion du coup d'Akita Shoten il y a de cela je crois 2 ans et qui est sorti en France aux éditions Kana. Et que j'ai tendance à décrire un peu, quand on me demande à quoi ça ressemble Shai, j'ai tendance à le décrire un peu comme le croisement spirituel entre My Hero Academia et Beastars, en quelque sorte. Puisqu'on a dans Shai une terre où il y a des gens qui ont des super pouvoirs, et il y a un représentant de chaque pays, notamment, qui prend un rôle de super-héros et qui va du coup combattre qui va combattre les menaces du quotidien et peut-être des menaces plus ambitieuses que ça derrière. Notre héroïne principale, elle s'appelle Teru Momijiyama, et elle est aussi extrêmement timide, ce qui lui a sans doute valu son surnom de Shai, son nom de héros de Shai. Et ça va beaucoup raconter en fait les psychologies de ces héros un peu plus en profondeur qu'un Hero Academia qui s'attarde plus à élargir son casting qu'à vraiment développer des histoires cohérentes pour ses personnages. C'est pour ça que j'ai tendance à le décrire par cette espèce de crossover qui ne veut en soi rien dire, hein, on va pas se mentir. La raison pour laquelle je ne suis pas forcément rassuré par le projet, parce que toute chose mise à part, Shai c'est plutôt cool, enfin ce que j'en avais lu à l'époque où j'avais dû le lire était en tout cas assez cool. Ce qui ne me rassure pas, c'est que le projet sera réalisé par un monsieur qu'on connaît bien, il s'agit de Masaomi Ando. Et Masaomi Ando, c'est le réalisateur de choses comme Scum's Wish, comme Minuscule, comme Astra, comme Anako-kun, qui sont des animés qui ont clairement un public qui y accroche, et je ne vous en voudrais aucunement d'accrocher aux animés de monsieur Ando. Seulement, c'est aussi un monsieur qui fait des animés qui ne bougent pas vraiment et qui sont réalisés un petit peu à moitié. Tout simplement, c'est un monsieur qui est, alors pour le coup, très talentueux pour faire en sorte de réaliser des séries et de les produire en jouant avec une économie de moyens, en composant notamment, en utilisant le fait de mettre des cases à l'intérieur d'autres, ce qui aussi a pour effet secondaire de limiter le nombre de cuts et de plans à réaliser, tout simplement. Donc c'est un monsieur qui travaille un petit peu à l'économie, entre guillemets. Du moins, c'est ce que ses productions récentes ont eu plutôt tendance à montrer. L'animé sera produit par le studio 8-Bit, avec lequel je ne crois pas qu'il avait collaboré avant ça, donc peut-être que c'est l'occasion pour lui de découvrir une nouvelle façon de travailler, puisqu'avant les séries qu'on connaît de Ando étaient produites par le studio Lerch. Du coup, peut-être que ça va lui permettre de partir sur une nouvelle méthode de travail. Qui sait? Les premières images qu'on a me prêtent à penser que ce sera peut-être le cas, parce que j'ai notamment vu un petit cut de VFX pas mal du tout. Donc, restons, ma foi, ouverts, restons curieux, gardons les yeux bien ouverts pour cette adaptation du coup d'un shonen tout à fait sympathique, qui arrive à une date encore inconnue, et qui répond du coup au doux nom de Shy. Voilà tout.
Ok.
Oui.
Voilà. Moi, je vais grouper, parce que l'heure tourne, donc je vais grouper deux news en une, que je vais intituler les news. Bon, bah, on se doutait bien que ça allait arriver.
Oui.
La première, c'est la deuxième saison pour Tokyo Mew Mew Mew.
Voilà, j'ai cru que t'allais partir sur la nécrologie, je me disais, ouais, il est un peu cavalier quand même.
Non, oui, bon, on a des nécrologies de gens qui sont vraiment très très vieux, qui sont décédés, mais... Non, Tokyo Mew Mew Mew, donc qui aura une deuxième saison, c'est pas très surprenant. Voilà, alors ce sera exactement le même staff, ce sera les mêmes doubleuses, et ça arrivera en avril 2023. Pour rappel, c'est le... Voilà, c'était un second cours, c'était un remake d'une série du début des années 2000, ouais. Donc qui a été lancée à l'occasion des 20 ans, une série de Magical Girls,
ouais.
Qui défend de la nature, et voilà, bah, à noter aussi que ce qui n'était pas prévu au moment du lancement du remake, c'est qu'entre-temps, la mangaka est décédée,
ouais,
de Tokyo Mew Mew, donc voilà, pour les fans de la franchise, c'est une bonne nouvelle que ce second cours arrive, et autre nouvelle, alors ça on ne savait pas que ça arriverait aussi vite, c'est la suite et la fin de Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean, qui arrivera pour, ouais, le coup quasiment dans la foulée du second cours, puisque ce sera le 1er décembre et ça couvrira toute la fin du manga Stone Ocean. Donc
tout
voilà, ensuite il faudra attendre un petit peu avant les courses en chariot.
En 14 épisodes. Oh, les courses en chariot, j'ai tellement hâte.
J'ai un peu hâte, j'espère qu'ils vont prendre leur temps et vraiment bien,
ouais,
le produire, parce que ça va être très très bien. Quoi.
Ouais, ouais, ouais. Là, j'ai vraiment les doigts très très croisés. Et rajoutons, tant qu'à faire, j'en profite pour rajouter dans le tas une autre nouvelle, qui est le fait que Gundam The Witch from Mercury, Suisse et Nomajo, du coup, aura le droit, bon, ça c'est normal, à plusieurs cours, vu que c'est une série Gundam,
oui.
Mais le deuxième cours arrivera non pas directement à la suite du premier, mais à partir d'avril. Donc ce sera un split cours. Et voilà, on reparle de Gundam très bientôt.
Yes.
Moi, je vais rapidement vous donner des nouvelles de Oshinoko. Oshinoko, du coup, l'adaptation du manga de Aka Akasaka et Mengo Yokoyari, dont on avait parlé il y a quelque temps, rappelle-toi, on avait dit plutôt du bien du staff qui s'en occupait. Et on avait aussi dit, si tu te souviens bien, qu'on ne savait pas quel format ça prendrait. Voilà,
oui.
Maintenant on le sait, et en fait, donc on hésitait un petit peu entre film et série, même si on se disait, oh, une série quand même, ça a des chances d'être une série. Bon, bah finalement, ils vont faire les deux, hein. c'est-à-dire que ça sera une série à proprement parler, ce sera une série télévisée, sauf que le premier épisode durera 90 minutes, puisque pourquoi pas,
bah,
j'imagine.
Okay. Un peu format, tu sais, un peu les séries HBO dont le premier épisode fait trois fois
le
format, quoi.
Ça. Ouais, là on commence à arriver à des formats qui sont quand même assez gargantuesques. Du coup, il va falloir que le studio de Gakobo ait les reins solides pour soutenir ça, sachant que ça arrive à partir de 2023. On a plutôt confiance en le staff et en ce qu'il peut proposer. Ensuite, Oshinoko, c'est bizarre. J'avoue que Une heure pour le premier épisode, j'aurais compris. Une heure et demie, ça me semble un peu large, mais écoutez, pourquoi pas. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a comme nouvelle sur cette adaptation de Oshinoko qui arrive en 2023. Qu'est-ce que tu en penses, Ali?
Eh ben, je suis chaud, en vrai. Hein,
oui.
Même si moi aussi, je trouve ça un peu bizarre d'ouvrir par un truc de 90 minutes, mais bon, après...
Je sais pas si ça...
J'attends de voir.
Je crois pas que ça a déjà été fait dans l'animation japonaise, un premier épisode de 90 minutes.
Ouais,
diffusé alors... Diffusé tel quel, je ne crois pas.
Faut jamais dire jamais, parce que sur les 10 000 séries qui ont été produites, ça peut peut-être
arriver
une fois, j'en sais rien, mais...
Même les épisodes doubles, c'est un phénomène, ouais, entre guillemets, relativement récent.
Récent, ouais, ouais.
Puisque dans les années 90, il me semble que ça n'existait absolument pas. Du coup, je pense que... Ouais, je crois que c'est une première, mais évidemment, que nos spectateurs, que nos auditeurs, nos auditeurs, en fait, puisque nous n'avons que des auditeurs et des auditrices, n'hésitez pas à nous reprendre si vous avez un exemple contraire.
Eh bien oui, parce qu'on est toujours content d'apprendre des choses.
Oui.
Comme on est content d'apprendre qu'il y a un nouvel animé, alors on ne sait pas sous quel format, qui est en production pour Rascal Does Not Dream,
oui.
Of Bunny Girl Senpai naninanana. Donc ça, vous vous en souvenez, c'était, ça avait été diffusé il y a quelques années, c'était en 2018, je crois.
Bah, et c'est ouais.
Déjà. adaptation de light novel où un jeune homme se retrouve confronté à des phénomènes étranges qui touchent des filles de son entourage. Pascal, ont des traumas, et si vous avez déjà vu ça quelque part, c'est normal, c'est un c'est pas la seule franchise d'animation à parler de ce genre de
avoir
ce genre
de concept. Je peux bien qu'il y en ait une autre qui aborde un peu des sujets similaires de façon quelque peu similaire, mais
voilà, un indice sympa de votre écran, voilà.
Je suis pas de marque.
Non mais voilà, Rascal Does Not Dream, c'était assez intéressant,
ouais.
Que ce soit dans le fond comme dans la forme. Il y avait eu un film après dont je ne dirais pas qu'il était aussi intéressant que la série et qui adaptait les tomes 6 et 7 du light novel.
Ouais.
Mais le light novel, il a continué sa route et les tomes 8 et 9 n'avaient pas encore été adaptés. Tome 8 et 9 qui s'appelle Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out et Rascal Does Not Dream of a Napscap... Napsack Kid, merci, c'est imprononçable, du coup je vais pas vous le faire en japonais. voilà, on sait que a priori tout le casting reprend son rôle et que ce sera le même réalisateur, mais on n'a pas d'idée sur le format. Donc film, OAV, série, radio-drama, on n'en sait rien pour l'instant, mais enfin, radio-drama non, puisque c'est un animé qui a été annoncé.
Oui.
Donc voilà, on n'a pas de date, on n'a rien, donc on vous en dira plus quand on aura plus d'infos.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Moi, je vais enchaîner avec l'anime Moonrise, en parlant de questions de format, puisque l'anime Moonrise avait été annoncé en 2018, ce qui remonte un peu, par Wit Studio et To Ubutaka, pardon, qui est un romancier qu'on connaît notamment pour la série des Mardock Scramble, qui avait d'ailleurs été adapté du coup en film par ce studio que j'aime pas et dont j'ai oublié le nom, et qui était aussi anecdote tant qu'à faire, qui avait été adapté à l'époque en manga par Yoshitoki Ohima, c'était son manga avant Silent Voice, et qui va bientôt sortir, c'est entre guillemets, bientôt sortir chez Noeve Graphics, donc voilà, sachez-le. Ou qui est déjà sorti d'ailleurs, il me semble que le premier tome a dû déjà sortir. Bref, en tout cas, Moonrise, il avait été annoncé et on n'avait pas plus d'informations sur le sujet depuis. Maintenant, on a les informations, là encore, ça fait partie des informations qui ont été droppées en masse par Netflix à un moment de cette période, puisque c'est un animé Netflix. Maintenant, on a quelques informations, à commencer par une date de diffusion. Pardon, c'est que ça arrive en 2024 et que du coup on va avoir, on a un peu plus de détails sur le staff, on sait qu'à la réalisation, ça on le savait déjà je crois, qu'il y aura Masashi Koizuka qui est un réalisateur qui avait notamment été au travail sur la saison 3 de l'Attaque des Titans, mais maintenant on a aussi une information qui est, ma foi, assez intrigante, c'est que on a quelqu'un de bien connu qui s'est chargé des character design originaux de la série. Il s'agit de Hiromu Arakawa.
rien que ça.
Rien que ça, donc la mangaka derrière tout simplement Fullmetal Alchemist.
Ouais, Noble Paysan Silver Spoon. Voilà.
Évidemment.
Arslan.
Et aussi le nouveau manga qu'elle a commencé récemment dans le Shonen Gangan et dont j'ai déjà oublié le nom et qui sortira peut-être bientôt en France, qui sait, chute pas de marque.
Titeuf le manga, voilà, dont on parlera dans un prochain épisode des Franco-Belges.
Bien sûr. voilà, du coup, on sait aussi que ce sera une série, du coup, qui arrivera sur Netflix. Et bah, on est assez curieux de découvrir ça, puisqu'à l'époque, Wit Studio nous avait vendu ça, ou du moins le président de Wit Studio, George Wada, nous avait vendu ça de façon assez grandiloquente, en disant une action avec une animation qui n'a jamais été vue auparavant, enfin bon, des trucs dans le genre.
Ouais.
Ce qui a tendance à dire un PDG quand il essaie de vendre un projet à des investisseurs. Et on sait que du point de vue du scénario, en tout cas, ça racontera l'histoire de deux hommes, Jack et Al, qui doivent affronter différentes problématiques tout en essayant de se confronter à l'espace lointain. Voilà. Globalement, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur le projet Moonrise. Ça arrive donc en 2024 et nous serons là.
Yes. Moi, j'ai fini avec les annonces d'animé, donc ouais. Avec le temps qui nous reste, je vais passer aux annonces business et DC.
Ah, chouette.
Business, c'est pas très cool en plus. Enfin, il y en a un, c'est un peu... je dirais que la news n'est pas surprenante. C'est le rachat de Anime Limited par Playon Pictures.
Ouais.
Alors, je dis que c'est pas étonnant parce que Atanime, alias Allzy Anime, ça restait un petit peu une anomalie que qu'aucun groupe quelconque n'ait racheté ce truc-là jusque-là. Mm. Pour rappel, c'est la boîte de Cédric Littardy et d'Andrew Partridge qui s'occupait d'éditer des DVD et de faire de la diffusion d'animés quoi, en boutique et au cinéma.
Au cinéma aussi, ouais.
Et au cinéma, voilà, un petit peu. Et qui restait, d'ailleurs, grosso modo, le dernier acteur sur le marché du DVD, du Blu-ray. Enfin, quasiment le dernier acteur à faire ça, quoi.
Un rachat qui revient donc quelques mois après la diffusion au cinéma du Roi Serre. Coïncidence? Je ne sais pas.
On ne sait pas. En tout cas, bon, tout ça s'inscrit dans un truc dont vous avez déjà parlé, qui est grosso modo la concentration de plein de licences et de plein de contenus dans les mains de quelques boîtes. De quelques acteurs. Et en l'occurrence, Playon Pictures, vous voyez pas forcément qui c'est, parce que c'est une boîte qui a changé de nom en fait il y a très très peu de temps. Ouais. C'est Koch Media en fait.
Je sais pas du tout avant de tomber sur cette news. Ouais.
Ouais, mais parce que tu t'es pas assez dans les bails de jeux vidéo, et en fait Koch Media c'est le plus grand diffuseur de jeux vidéo AA d'Europe.
Oui, que Koch Media je connaissais, tu vois, mais le fait que c'était renommé en Playon Group, j'avais pas du tout vu l'information.
Ouais, mais en fait ils l'ont pas surbrandé en fait ce truc là, parce que grosso modo Playon Group en fait ça englobe tellement de trucs que ça se fait un peu en loose day pour un peu rebrander l'ensemble de leur machin sous un même label qui est Playon, parce qu'en fait Playon c'est des studios d'animation, c'est des salles de cinéma, c'est aussi quand même plus d'une centaine de studios de développement de jeux vidéo, et c'est surtout une boîte qui a été rachetée par Embracer il y a pas longtemps, donc qui est un géant suédois des médias,
ouais,
en fait.
C'était le fameux THQ Nord, c'est ça?
C'est une partie de c'est une partie de THQ Nordique qui s'est retrouvée là-dedans, ouais. Parce que les THQ a été divisé en plein de trucs. Donc oui. Bref, Embracer se cache absolument pas d'avoir une énorme stratégie d'acquisition de licences à tout crin. Et donc ils viennent de mettre la main sur Anime Limited, qui a quand même les droits sur pas mal de séries, sur par exemple les films Sword Art Online, sur Pouet la Magie Madoka, sur aussi des films comme Les Ailes données à Misée par exemple, oui. Ghost in the Shell, enfin voilà, c'est quand même pas rien en termes d'acquisition de droits de diffusion, ouais. Et ça maintenant ça appartient donc à Playon et donc à Embracer Group. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Voilà, parce qu'on sait jamais, ils ont des stratégies qui sont des fois un petit peu difficiles à lire, Playon, donc on verra ce que ça va donner dans quelques temps.
On verra bien, tout à fait. Moi, j'ai plus beaucoup de news, donc je vais un petit peu terminer peut-être là-dessus. Une dernière annonce d'animé, tout simplement. Je vais faire ça assez rapidement. C'est le jeu Atri My Dear Moments, qui est un jeu que vous ne connaissez pas, puisque c'est un visual novel. Nouvelle intéressante à deux égards. Le premier, c'est que c'est un visual novel produit par le studio Aniplex.exe. Et il me semble que c'est la première fois qu'une production Aniplex.exe, qui est du coup leur studio en charge de production de visual novel originaux, il me semble, va être adapté en animé. Donc déjà, ça, c'est un mouvement intéressant en soi. Le deuxième truc intéressant, c'est que ça va être réalisé par quelqu'un qu'on connaît bien. Il s'agit de Makoto Kato, qui est le réalisateur notamment de Bloom Into You, de Lord Elmeloy, de quelques autres séries de ce type-là, chez le studio Troika. Et du coup, forcément, ça donne un peu envie de voir à quoi ça va ressembler, sachant que Atri My Dear Moments, c'est ce genre de visual novel estival où on va voir un mec qui retourne à sa campagne pour retrouver son village submergé et qui va, au cours d'une plongée dans ce village, découvrir un robot à l'apparence féminine. Voilà. Globalement, c'est à peu près ça l'intrigue. Donc ce sera adapté sous la forme d'une série animée et on retrouvera ça prochainement sur nos écrans. Voilà.
Yes, et du coup, il ne me reste pas beaucoup de news, je vais grouper les miennes.
Fais donc.
Je vais d'abord en parler d'une qui est pas très cool, qui est l'annonce. Ça, vous en avez peut-être entendu parler, ça a fait pas mal de bruit, du fait que le doubleur anglais de Mob dans Mob Psycho 100 ne reprenait pas son rôle. On en sait désormais un peu plus sur le pourquoi du comment. C'est tout simplement parce que, en gros, Crunchyroll n'a pas souhaité passer par... en gros, la guilde des doubleurs américains, qui garantit un paiement minimum et des conditions de travail, tout simplement une
grosse... Le syndicat, faut dire ce que c'est un syndicat.
C'est un syndicat, tout à fait. Oui. J'ai dit la guilde parce que c'est le...
Parce que c'est rigolo,
Parce que c'est le terme anglais, en plus, oui, voilà, pour ce genre de groupement. Mais grosso modo, Crunchyroll souhaitait s'affranchir de la convention collective des doubleurs aux États-Unis, qui est assez puissante, hein, quand même. Parce que, notamment, ils ont réussi à arracher un certain nombre de droits et de minima par rapport à des grèves qu'ils avaient déjà fait. Donc voilà, et ne pouvant pas être payé à la hauteur de son travail et selon cette convention collective, ce doubleur a décidé de ne pas reprendre son rôle. Et Crunchyroll a décidé de revenir à grosso modo de la production interne pour le doublage. Ce qui est pas très bon signe en général, parce que on sait que ça veut dire souvent des gens payés moins bien avec des moins bonnes conditions de travail. Donc ça, c'est pas cool. Et ça s'inscrit dans un milieu un peu plus large. Un mouvement un peu plus large de beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu de la voxographie en fait aux États-Unis et en Grande-Bretagne qui soulignent des conditions de travail un peu déplorables. Alors il y a eu l'affaire qui est pas très claire avec la doubleuse de Bayonetta dont on sait que ça a l'air d'être plus compliqué que prévu, mais ça a permis à pas mal de ces deux affaires en fait ont permis à pas mal de gens qui font du doublage, y compris de personnages connus, de donner leur salaire en public. Et des fois c'est vraiment vraiment pas beaucoup, de type doubler l'intégralité d'un jeu vidéo pour moins de $5,000 par exemple. Voilà, alors que la personne peut avoir un rôle principal. Alors, encore une fois, je parle pas forcément de la personne qui doublait Bayonetta, parce que là ça a l'air un peu plus compliqué. Oui. Mais il y a eu aussi des gens qui ont dit moi je double un épisode d'animé pour $40, c'est vraiment pas beaucoup. Effectivement.
D'autant plus dans les délais qui doivent être probablement imposés.
Et oui, et des conditions de travail qui en plus sont un peu complexes. Quoi.
Puisqu'on est sur du simuldub. Il y a eu aussi eu quelques affaires en France, on n'a pas vraiment pu creuser ça plus en profondeur, non. Mais apparemment il y a eu notamment une figure assez toxique qui était...
De la direction des plateaux. Ouais.
De la direction des plateaux de Crunchyroll, du studio de doublage de Crunchyroll en France, qui a été, à ce qui paraît, évincé, et ça semble la moindre des choses. Et je rajoute évidemment une information sur cette histoire de Mob Psycho 100, qui est que du coup le rôle de Mob a été, semble-t-il, réattribué à Charles Martinet. C'est faux, évidemment, c'est faux.
Il est trop occupé à doubler Jojo.
Bah oui, évidemment.
Voilà, bon, et puis écoute, je vais terminer mes news par les annonces de décès rituels de cette émission. Oui. D'une part, on a plus d'informations sur les circonstances de la mort du créateur de Yu-Gi-Oh!, de Kazuki Takahashi, puisqu'on sait désormais en fait qu'il est décédé de manière relativement héroïque, si on peut dire, en tentant de sauver une petite fille qui était en train de se noyer suite de conditions météo un peu déplorables. Qui a été confirmée en fait par la personne de l'armée américaine qui a effectivement sauvé cette petite fille et par divers témoins qui ont
a été confirmée par les gardes-côtes japonais. Ouais.
Exactement, voilà. Donc il y a eu des témoins effectivement. Donc on a appris que c'est en tentant de sauver quelqu'un d'autre qui s'est noyé. Donc ça rajoute encore un petit peu à la tragédie de cette circonstance, des circonstances de cette disparition. Donc voilà, RIP encore une fois, Kazuki Takahashi.
Tout à fait.
On a également l'annonce du décès d'un doubleur de Shinsuke Shikaishi, alors là pour le coup à l'âge de 91 ans.
Oui.
Qui était surtout un doubleur assez connu dans les années 60-70. Il avait travaillé sur Sazae-san notamment.
Ouais.
Et il doublait déjà. Moi, quand j'étais petit, il doublait déjà des vieux. Donc, voilà. Donc, ses rôles les plus récents, c'est des choses comme Le Garçon et la Bête.
Ouais, c'est quelques rôles 23, très épars. Quoi.
Très, très épars. Hein. Vraiment, l'essentiel de sa carrière, c'était plutôt les années 60. Et dernière annonce de décès que je voulais signaler, c'est le mangaka Eiji Kazama, qui s'est éteint à l'âge de 75 ans et qui était un petit peu connu surtout au Japon pour ses mangas de golf. Pour ses mangas de golf.
Énormément connu au Japon pour ça.
Ouais, parce que évidemment chez nous le golf, OSEF quoi, c'est vraiment un sport pour Donald Trump et les riches quoi.
Du moins le public des lecteurs de mangas, le public des joueurs de golf, s'intéresse peut-être un peu moins qu'au Japon.
Ça, ça se superpose un peu moins, puisque nous, quand on parle des golfs en France, c'est juste pour signaler qu'ils prennent les dernières réserves d'eau disponibles pour arroser les greens. mais au Japon, bah, on rappelle, c'est un sport qui est extrêmement populaire et beaucoup plus populaire, même au sens étymologique du terme, c'est-à-dire pratiqué par beaucoup plus de gens que, bah, qu'en France, où c'est vraiment un sport de gens qui ont vraiment trop d'argent et trop de place. Donc voilà, Eiji Kazama s'est éteint 75 ans et voilà, c'était une vedette du manga de golf.
Ouais, tout à fait, et sachant qu'il avait, comme tous les mangakas de sa génération, il a commencé dans les années 70 en faisant des shonen de baseball.
Oui.
Et en fait, c'est dans les années, c'est essentiellement fin des années 80, début des années 90 qu'il s'est vraiment révélé en tant que dessinateur de manga de golf, notamment avec une saga qui dure encore jusqu'à aujourd'hui, Kazeno Daichi, qui avait reçu le prix Shogakukan Manga en 93 et qui est toujours en cours avec 84 tomes sortis.
J'en ai feuilleté un au musée du manga à Kyoto, truc-là, effectivement, c'était mis en avant.
C'est une série iconique avec des couvertures qui sont assez... bon, c'est spécial, hein. Je pense.
C'est moche.
Tu vois, c'est clairement le genre de couverture que si ça sortait en France, Kazé changerait un petit peu la mise en page.
On dirait des placeholders, c'est vraiment...
C'est assez étonnant. Mais ouais, en tout cas, c'est un grand manga qui, du paysage du manga japonais
Totalement inconnu chez nous, mais voilà, c'est au Japon, c'était quelqu'un qui comptait, quoi.
Sachant que son rapport à l'animation, puisque c'est quand même une émission sur l'actualité de l'animation, c'est que un de ses mangas, Dr. Typhoon, avait été adapté en OVA au début des années 90. Ouais. Dr. Typhoon, qui était un manga de golf comparativement assez court, vu qu'il s'est terminé en simplement 25 tomes.
Oui. Ouais, voilà. Ah, puis dernier décès que je voulais quand même signaler, c'est celui de Yoshitaka Kono, qui est pour le coup pas quelqu'un de super connu dans l'animation, mais qui a été là pendant 40 ans en tant que key animator.
Ouais.
Récemment d'ailleurs sur Demon Slayer, sur Berserk, sur aussi pas mal de séries des années 90, hein, des My Goddess, des Pretty Sami, enfin des trucs comme ça, des trucs de Magical Girl, pas mal, Tenchi Muyo, il a beaucoup travaillé sur beaucoup de choses et vraiment récemment, bah, voilà, encore une fois, sur Demon Slayer. Donc voilà, c'est quelqu'un, encore une fois, qui nous a quitté relativement jeune, je crois. J'ai pas retrouvé l'âge, mais qui a commencé à travailler dans les années 80.
Ouais, on connaît pas son âge.
Qui devait pas être très très âgé. C'est toujours triste quand ça se produit.
Il avait très probablement autour d'une soixantaine.
Ouais, voilà, maximum 60 ans. Ouais, il est pas à la retraite, quoi.
Ouais, clairement. Voilà, qui conclut notre conducteur et notre programme d'information. Alors, on pourrait vous faire les actus en vrac. Je vais rapidement juste donner quelques noms, puisque parmi les autres décès qu'on a connus dans cette période, il y a eu le mangaka Isami Ishii, qui était connu essentiellement pour ses shonen. Il y avait l'illustratrice Yuriko Yamawaki, dont certains des livres pour enfants avaient été adaptés en court-métrage par le studio Ghibli. On avait l'illustratrice Sota Kusada qui a mis fin à ses jours et qui était une illustratrice de Kantei Collection, mais il n'y a pas eu non plus que des annonces de décès à cette période-là. Il y a aussi eu quelques informations... Pardon ?
Oui, heureusement, c'est une longue tragédie.
Heureusement. Il y a eu aussi des annonces, comme par exemple celle que la série Pretty Rhythm, qui était en diffusion en continu depuis 11 ans et demi, est désormais en hiatus, depuis que s'est terminée la série Watcha Primagi, ce qui est, ma foi, une news à noter. Il y a aussi le manga Oshikuzu Telepath du label manga Kirara, manga Time Kirara, qui va être adapté en animé. Il y a tout un tas de mangas, My Tiny Senpai, le shoujo Ojoto Banken-kun, plein de choses, et aussi Nitro Plus qui annonce un animé original qui s'appelle Revenger, qui a l'air absolument aussi edgy que son nom le prête à penser. Bref, tout un tas de choses dont on aurait pu vous parler aussi, mais nous n'avons qu'une heure, et c'est une heure qui a déjà été bien remplie grâce à toi, mon cher Zali Falcam, et tu n'as même pas eu le temps de parler d'Ed Sheeran, le mec bizarre
Sheeran,
qui parle avec Pokémon.
Pokémon, bah oui, voilà, hein, Ed Sheeran, il a fait un clip avec des Pokémon dedans, comme Katy Perry, bah c'est bien, bravo Ed Sheeran.
Oui, tout à fait. Voilà qui conclut notre 19e épisode de Quel est le bulletin d'information ? Quel est le bulletin d'information qui va donc arriver dans vos oreilles quelque peu avant peut-être le bilan de l'animation.
Oh.
de cet été ?
Très certainement avant. Mais
oui, très certainement, à moins que vraiment je me brise tous les os de la colonne vertébrale avant ce week-end. Il y a des chances quand même. Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés, tout simplement.
Yes.
On espère que je n'ai pas trop toussé et trop reniflé. On espère que vous avez appris les choses et que vous avez mis des choses dans votre plan to watch. On vous retrouve dans un mois pour un autre qui est le bulletin d'information. On vous retrouve dans moins d'un mois, probablement pour le bilan du coup
de
l'animation.
Je vais pas mettre un mois.
De cet été. Oh, on ne sait jamais. Hein.
On ne sait jamais, oui, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais normalement, non, on aura, d'ici la fin octobre, vous aurez les deux bilans.
A priori, vous aurez les deux bilans avant que Disney Plus ait fini de diffuser Black Hawk Shooter Downfall. Finalement,
oui,
l'un dans l'autre est plutôt une belle performance. On vous invite à écouter les autres podcasts du réseau Calvin Ball Consortium. À chaque fois, je manque de me tromper d'appeler ça Calvin Ball Consortium, car je suis quelqu'un d'extrêmement égoïste.
En volume, c'est pas faux, mais...
peut-être qu'en temps de diffusion, c'est ouais, possible, effectivement. On vous invite à écouter des podcasts. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous recommander, Zali? Car n'écoute pas assez de podcasts pour arriver à rattraper ceux que j'ai déjà en cours. Du coup, je n'arrive pas à en commencer de nouveau.
Eh ben écoute, là c'est facile, hein, puisqu'on en a un nouveau qui vient d'arriver dans le réseau, c'est Histoire Visuelle de Nadi, qui était auparavant chez Forum Tally et qui nous rejoint. Donc bah, comme son nom l'indique, c'est un podcast de découverte et d'analyse de visual novel. Voilà,
ah, très chouette, ça.
Et c'est très très cool. Donc voilà, Nadi, ses chroniqueurs et ses chroniqueuses qui parlent de VN, VN plutôt justement japonais, hein, japonais. Donc même si je pense que je vais en tant que patron faire du lobbying pour que parler de Neurodiver, de Valhalla, de VN occidentaux et tout, et ça n'arrivera pas. Mais non, c'est assez chouette à écouter. Il y a 3 épisodes parus pour le moment et je suis assez content que ça arrive sur notre réseau.
Eh bien, écoute, je suis sûr que tant que c'est sur VNDB, ce sera accepté. Et évidemment, c'est un propos hautement polémique, car les administrateurs de VNDB ont tendance à faire n'importe quoi.
ouais, j'ai cru comprendre.
On vous encourage également à nous laisser un petit peu d'argent, une petite pièce, quelque chose de quoi manger, en fait, cet hiver, tout simplement.
Et les factures d'électricité.
Les factures d'électricité, tout à fait. Les factures de gaz qu'on achète directement à Vladimir Poutine, c'est faux. Yes. Non, nous permettre...
Les tarifaires, tout ça.
Nous permettre, évidemment, d'investir dans le Calvin Ball Consortium pour se payer du matos, pour se payer l'hébergement, pour se payer Yatos, tout simplement. Pour se payer de Yatos, notre beau programmeur, du coup, qui fait le site, notamment, du Calvin Ball Consortium. C'est donc sur Tipeee.
Et qui nous a trouvé un hébergeur pas cher, donc plus vous donnez d'argent et moins on en dépense, ça c'est formidable.
Et ça c'est beau, et ça nous permet d'entendre aussi parler de maître chien, et ça c'est beau quand même.
Et exactement, et t'as dit Tipeee, et c'est Patreon bien sûr.
mais eux bon d'accord, dans ce cas Patreon, mais c'est bien parce que t'insistes, et il me semble qu'il y a un seuil où si vous payez suffisamment, je serai obligé de lire des fanfictions avec une voix hautement érotique, donc n'hésitez pas à vous diriger vers là. Et
c'est 200 euros par mois, on est à 135, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Ah oui, là il va falloir effectivement trouver un riche investisseur ou une riche investisseuse pour accomplir ses rêves les plus fous.
Allez-y les croqueuses de diamants, mes DM sont ouverts.
Voilà. Bon, eh bien, merci de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous du coup d'un pas si longtemps que ça pour vous parler toujours, encore et toujours d'animation japonaise, car c'est notre plaisir et car ça nous fait plaisir de vous faire découvrir des choses. Bisous, ciao.